Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour à tous, bienvenue dans Midi News Weekend. Quel plaisir de vous retrouver pour 2 heures de décryptage et de débat autour de l'actualité de ce dimanche 5 mai. Au sommaire, aujourd'hui, nous irons d'abord à Nanterre où se déroule une reconstitution de la mort de Naël. Ce drame avait déclenché, rappelez-vous, des émeutes dans tout le pays au mois de juin dernier. Alors quel est le but de la mise en situation du jour? Quelles leçons ont été tirées de ces événements? On sera sur place dans quelques instants. On parlera aussi de la multiplication des actes de violence de l'extrême gauche contre des personnalités publiques. Hier en Corse, Éric Zemmour a été agressé. Le même jour à Perpignan, une conférence de Michel Onfray était perturbée par des activistes. De quoi ces agissements sont-ils le nom? Peut-on encore assumer de penser différemment? On évoquera aussi le cas de Colombe, sympathisante du Rassemblement National, contrainte de quitter ses activités au Resto du Cœur à cause de son engagement politique. Et puis on reviendra sur les propositions d'Éric Ciotti en matière de sécurité. Dans le journal du dimanche, le président des Républicains dévoile le contenu d'une lettre qu'il a adressée au président de la République. 10 chantiers et 25 mesures que l'on vous détaille dans quelques instants. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est l'heure de faire un point complet sur l'information. Et c'est avec vous, Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les échanges se poursuivent au Caire afin de parvenir à un accord de trêve entre Israël et le Hamas. Les belligérants se sont accusés tour à tour d'entraver cet accord. Si elle a lieu, la trêve devrait aboutir notamment à une libération de prisonniers palestiniens en échange d'otages israéliens. Dans le même temps, nouvelle mobilisation anti-gouvernement à Tel Aviv. Hier soir, des milliers de personnes ont manifesté, dont des proches d'otages, pour réclamer à Benjamin Netanyahou la conclusion d'un accord de trêve. C'est vous qui sapez tout accord à dénoncer la population. Les actes antisémites augmentent en France depuis le 7 octobre. C'est ce que révèle une enquête IFOP dévoilée par nos confrères du Parisien. Les chiffres sont alarmants. 35% des moins de 25 ans estiment justifié de s'en prendre aux Juifs en raison de leur soutien réel ou supposé à Israël. Explication de Tancrède Guillotel et Solène Boulan.
Depuis l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas, un quart des Juifs en France a été victime d'un acte antisémite. C'est ce que révèle l'IFOP dans une enquête menée par l'antenne française de l'American Jewish Committee. Un climat qui pousserait la communauté à s'effacer dans l'espace public. 44% des Juifs français sondés ne portent plus la kippa dans la rue. 33% disent avoir réduit ou arrêté leur déplacement en Uber. Une situation que déplore Anne-Sophie Seban-Bekash, la directrice de l'American Jewish Committee Paris.
Dès le lendemain du 7 octobre, comme si la passion antisémite en Israël avait déclenché partout dans le monde un sentiment, une haine anti-juive qui a vraiment créé ce sentiment de peur extrême chez les Français juifs et d'ailleurs chez les juifs du monde entier.
La haine et le rejet d'Israël seraient la première cause de l'antisémitisme en France. 35% des moins de 25 ans estiment justifié de s'en prendre aux juifs en raison de leur soutien à Israël, contre 21% de la population générale.
Direction Cannes à présent, où une propriétaire d'appartement a entamé une grève de la faim depuis 2 semaines. Les locataires de Daniel Trottini ne lui versent plus ses loyers depuis septembre dernier. 16 000 euros de perdus puisque la Banque de France vient d'effacer la dette de ces individus. Reportage de Franck Trivio avec le récit de Clotilde Payet.
Cela fait déjà 14 jours que Daniel, propriétaire d'un appartement, est en grève de la faim.
Vous avez fait un malaise, vous êtes parti à l'hôpital, oui. Et vous avez dit aussi, je ne lâcherai pas.
Non. Ben non, quand on en arrive là, ça sert à quoi de lâcher? Enfin, c'est où on va jusqu'au bout ou on n'y va pas du tout.
La canoise est déterminée à faire entendre sa revendication.
Je reçois un courrier en recommandé. Et c'est la Banque de France qui m'indique que les loyers impayés de mes locataires sont effacés. C'est-à-dire, ils ne doivent plus rien.
Plus de 16 000 euros, c'est le montant de la dette des locataires de Daniel effacée par la Banque de France. Pour elle, cette situation est injuste.
Pourquoi aujourd'hui un voleur, il n'est plus un voleur? Parce que moi j'appelle ça du vol. Et c'est un vol impuni.
Et pour faire entendre sa colère, Daniel n'a pas trouvé d'autre solution que la grève de la faim, son dernier recours pour alerter sur sa situation.
Pour que je sois entendue aussi clairement, que je sois entendue, qu'on comprenne que je trouve ça injuste, et je suis sûre, je ne suis pas toute seule qui trouve ça injuste, c'est pas possible.
La propriétaire attend donc une réaction. Elle espère pouvoir récupérer les sommes qui lui sont dues.
Ces gens-là ont fait un dossier de surendettement et on attend quoi? Que je fasse moi un dossier de surendettement derrière? Là, ça va, mais demain, ça ne va plus aller. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas un puissant fond.
La grève de la faim de Daniel a déjà suscité des réactions chez les politiques, dont celle du maire de Cannes, David Lisnard, qui a tenu à lui exprimer son soutien.
Dans le reste de l'actualité, en Australie, un adolescent de 16 ans radicalisé a été abattu par la police hier. L'individu avait blessé au couteau une personne, désormais dans un état grave mais stable. Le jeune homme, atteint de troubles mentaux, avait prévenu par téléphone les forces de l'ordre qu'il commettrait des actes de violence. Et puis on termine avec un peu de légèreté et ces images impressionnantes. Clap de fin de la tournée mondiale de Madonna. Un immense concert gratuit s'est tenu hier soir sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. L'événement a réuni près d'1 600 000 personnes. Une belle façon de célébrer les 40 ans de carrière de la star planétaire. À 65 ans, Madonna reste à coup sûr la reine de la pop. Je vous laisse en compagnie du roi des débats, Thomas Bonnet. Moi, je vous retrouve à 11h30 pour un prochain point sur l'actualité.
Merci beaucoup Isabelle et on se retrouve dans 30 minutes. Avec moi aujourd'hui pour m'accompagner pour ces deux heures de débat, Judith Vintraube, grand reporter, bonjour.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, Kevin Bossuet.
Bonjour Thomas.
Je rappelle, professeur, mais je crois que tout le monde vous connaît ici désormais. Et en face de vous, Joseph Touvenel. Bonjour Joseph.
Bonjour,
directeur de la rédaction de Capital Social. Vous aussi, on vous connaît, vous êtes un habitué de...
Je suis très impressionné d'être face au roi des débats.
Ah oui, vous avez vu, quel honneur on m'a fait. À vos côtés, Patrice Arditi. Bonjour Patrice.
Salut.
Journaliste. Avec nous aussi ce midi pour évoquer un certain nombre de sujets. On va commencer, si vous le voulez bien, en allant à Nanterre, où il y a une reconstitution en cours sur les faits qui se sont produits il y a 9 mois désormais, lorsque Naël a été tué par un tir policier. Il y a donc une reconstitution, qui était très attendue. On va retrouver notre équipe sur place, Célia Barotte et Charles Baget qui nous attendent. Bonjour Célia. On le disait, cette reconstitution était particulièrement attendue.
Oui, parce que l'enjeu de cette reconstitution est de déterminer si le policier mis en examen pour homicide volontaire était en danger au moment de son tir. Les policiers impliqués dans l'affaire, la famille de Naël, les témoins, mais aussi les deux passagers qui accompagnaient Naël ont été convoqués. Nous avons vu également arriver sur les lieux du drame une voiture sur un camion, une voiture bâchée. Cela pourrait être le véhicule accidenté, mais aussi... une autre Mercedes jaune est présente sur les lieux. Durant cette reconstitution, les enquêteurs vont devoir confronter les différentes versions des faits. Et enfin, on attend des deux policiers qu'ils refassent les mêmes gestes que le 27 juin dernier. Pour leur sécurité, ils sont vêtus d'un gilet pare-balles et ils portent une cagoule pour protéger leur identité.
Célia, on le voit derrière vous, il y a semble-t-il un dispositif de sécurité assez important. Est-ce que c'est parce que les autorités redoutent finalement des débordements autour de cette reconstitution ?
Eh bien Thomas, pour le bon déroulement de cette reconstitution, pour le bon déroulement de l'enquête, il est important d'établir un périmètre de sécurité pour aussi éloigner les caméras. Mais nous avons pu voir depuis notre arrivée l'arrivée de quelques jeunes vêtus en noir. Des médiateurs municipaux aussi sont également présents. C'est un large dispositif de sécurité qui est mis en place bien au-delà du carrefour et de la place Nelson Mandela. En tout cas, les axes routiers sont bloqués. La reconstitution devrait prendre une grande partie de cette journée.
Merci beaucoup Célia, merci également à Charles Baget qui vous accompagne. Nul doute qu'on vous retrouvera dans le courant de la journée pour suivre cette reconstitution en cours à Nanterre. Alors c'est une reconstitution qui peut susciter quelques interrogations et surtout de la récupération très rapidement de la part, une fois n'est pas coutume, des élus de la France Insoumise. Thomas Porte, à nouveau, qui tweet il y a quelques instants sur cette reconstitution, je le cite, « Aujourd'hui va se dérouler la reconstitution de la mise à mort de Naël par un policier. Cela ravive des souvenirs douloureux et nous rappelle que rien n'a été fait pour mettre fin aux violences policières et contre le racisme dans la police. plus que jamais, le combat continue. Je commence avec vous, Judith. On le voit très rapidement, il y a une utilisation de cette reconstitution à des fins politiques, à des fins électorales, par la France insoumise.
Oui, une exploitation de la mort d'un jeune homme, hein, appelons les choses par leur nom. Ce qui est frappant aussi, on voyait dans le reportage de Célia Barotte, c'est qu'en France, que ce soit une partie des politiques, la France insoumise en l'occurrence, ou une partie des Français, l'exercice normal de la justice, par exemple, la reconstitution n'est plus possible. Les précautions dont sont obligés de s'entourer les deux policiers mis en cause et le dispositif qui a été déployé autour de cette reconstitution est totalement fou. On ne peut plus, la justice ne peut plus travailler aujourd'hui dans certains quartiers, pas dans toute la France, de façon normale. Et apparemment, ça ne choque personne. J'ajoute un dernier mot. Il y a eu cette exploitation politique, puis ensuite il y a eu les émeutes.
Bien sûr.
Et on sait que les gens qui y participaient se fichaient à peu près tous du sort de Naël. Ils étaient là pour casser.
Kevin Bossuet, c'est vrai qu'on s'habitue finalement à ce qu'il y ait un périmètre de sécurité très large autour d'une reconstitution. En l'occurrence, cette affaire-là avait une portée médiatique très importante et les émeutes qui ont suivi force les autorités à prendre des précautions.
Bien sûr, moi ce qui m'a marqué, c'est que les tenants du discours diversitaire n'ont de cesse de choisir leurs victimes et de choisir leurs coupables. Dans le cas de Naël, c'est forcément le policier qui est raciste. On parle de violence policière. Pourquoi ? Parce qu'il est blanc. Et que Naël, comme il est d'origine étrangère, il est forcément victime. Regardez ce qui s'est passé récemment avec Thomas à Crépol ou encore avec Matisse à Châteauroux. C'est-à-dire que Matisse et Thomas auraient tenu des propos racistes. Comme pour mieux, finalement, pondérer les choses et nous raconter que Matisse et Thomas seraient finalement un peu coupables d'avoir été assassiné. C'est quand même incroyable, ce deux poids, deux mesures, cette manière de racialiser le débat public, cette manière de choisir les victimes, les bonnes victimes et les mauvaises victimes, et ça en dit long sur ce qu'est devenu la France insoumise. Parce que à force de faire cela, on remet véritablement en cause le vivre ensemble. Je suis désolé, mais Thomas Porte cherche un électorat précis, un électorat des banlieues. Donc il flirte avec l'antisionisme, il victimise Naël et tout le monde regrette que Naël soit mort. C'est tragique ce qui lui était arrivé. Mais ceux qui prétendent finalement incarner le vivre ensemble sont les premiers à les remettre en cause. Il tient un discours qui est tout sauf le discours républicain et on voit encore une fois que l'extrême gauche jette de l'huile sur le feu d'une société française en ébullition.
Joseph Touvenel, on se rappelle que lorsqu'il y avait eu les émeutes, la France insoumise n'avait pas appelé au calme. Là, on voit à nouveau une utilisation de ce fait, de ce drame, avec des termes comme « mise à mort » qui oui. sont employés par Thomas Porte. C'est relativement grave d'entendre ça de la bouche d'un élu, d'un député.
En fait, dès qu'il y a une étincelle, la France insoumise essaye de mettre de l'huile sur le feu en toute irresponsabilité. Parce que là, on a les faits démontrent que ce qu'ils disent sont totalement inexacts. Il y a beaucoup de pays où quand un jeune qui conduit sans permis, qui fait des ruptures, un refus d'obtempérer, trouve la mort dans des conditions qu'on est en train de creuser, on ne sait pas quelles sont les conditions exactes. Il y a beaucoup de pays où on prend toutes ces précautions, où on essaye d'avancer vers la vérité en faisant une reconstitution. Il y en a très peu. Les faits démontrent que notre pays, heureusement, n'a pas une police raciste, n'a pas une police violente. Il y a une police qui est très encadrée, et c'est normal, qui, quand elle est amenée à sortir son arme. Il y a des enquêtes. Pour les policiers, c'est une inquiétude permanente. Est-ce qu'on envisage... Mettez-vous, sortez dans la rue. Voyez une voiture qui arrive en face de vous, et si vous vous dites « je dois l'arrêter », vous faites comment ? Et notre responsabilité collective, c'est d'avoir des lois, de dire à la police « oui, vous avez un droit d'utiliser votre arme, mais ce droit est très encadré », et là, on voit que c'est la démonstration. Ça va à l'encontre de ce que fait Porte. Porte pourrait dire qu'une chose, merveilleux pays où quand quelqu'un trouve la mort, on fait une enquête pour savoir où sont les responsabilités. Ces gens-là, non seulement sont irresponsables, mais sont dangereux.
Pour finir sur ce sujet, Patrice Arditi, hier, on parlait ensemble de ce fonds émeute qui avait été imaginé par un rapport parlementaire, ce qui impliquait d'une certaine manière qu'on pouvait craindre de nouvelles émeutes. On est 9 mois après ces faits de violence urbaine qui ont émaillé le territoire et visiblement, les leçons n'ont pas été tirées, l'apaisement n'est pas de mise aujourd'hui, toujours pas.
Bah, l'apaisement, il aurait dû survenir depuis un certain temps, mais regardez comment ça s'est passé. Franchement, il y a eu ce drame, parce que c'est un drame, c'est absolument indéniable. Il y a eu le policier qui est resté, franchement, très 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 longtemps enfermé. Donc, il y avait une présomption de culpabilité pour tous ceux qui, évidemment, étaient là en train de plaindre la famille de ce pauvre Naël. Il est resté, je crois que ça a été une erreur de la justice que de le laisser aussi longtemps enfermé, parce que ça supposait évidemment qu'on pouvait se méfier de ses déclarations. Là, nous avons une reconstitution. On parlera du haut risque après. On a une reconstitution. Qu'est-ce que c'est qu'une reconstitution ? C'est vraiment tous les éléments qui peuvent servir à établir la vérité. Mais j'en fiche mon billet, quoi qu'il puisse se passer, si pour une raison ou pour une autre, les magistrats, les enquêteurs se rendent compte que finalement, il y avait un véritable geste de légitime défense, eh bien vous allez voir, ça va s'embraser. Reconstitution à haut risque, avec Thomas Porte qui, une fois de plus, met de l'huile sur le feu. Franchement, parler de mise à mort là, c'est, je pèse mon terme, dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse et c'est à l'image du parti qu'il représente.
Mais Patrice, pardon, Patrice a tout à fait raison de dire que ça ne va rien éteindre au cas où l'hypothèse de la légitime défense se vérifierait. Kevin parlait tout à l'heure de l'accusation de racisme portée contre la police. Elle a aussi été portée contre la police dans l'affaire Adama Traoré, alors qu'un gendarme était noir, un des principaux mis en cause, disculpé depuis, puisque la vérité a été établie, cette affaire s'est éteinte, la thèse du gang Traoré était fausse, ça ne les empêche pas de continuer à exister, à militer et à contester les décisions de justice.
Et on suivra tout au long de la journée cette reconstitution et les potentiels débordements qui pourraient intervenir. On espère évidemment que tout se passera dans le calme. On va prendre la direction d'Ajaccio, ça ne vous a pas échappé. Hier, le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, était en déplacement sur l'île de Beauté et il a été visé par des insultes et des jets de lors d'une déambulation sur un marché. L'ancien candidat à l'élection présidentielle était attendu par une quinzaine de personnes qui l'ont traité notamment de facho. Explication dans ce sujet de Christine Alloudi et Sarah Varni.
C'est une déambulation compliquée qu'a vécu Éric Zemmour ce samedi à Ajaccio. Sur le marché de la ville, le président du parti nationaliste Reconquête était attendu par une quinzaine de personnes. Insulté de facho, il a également été visé de jets d'eau et d'œufs. Sur ces images, Éric Zemmour réagit et semble porter un coup à cette femme. Un réflexe de légitime défense selon son entourage qui ajoute qu'à aucun moment le président du parti Reconquête n'a eu l'intention de la frapper. Après cette séquence, Éric Zemmour a rapidement réagi.
Ce sont des imbéciles violents qui croient m'intimider. Mais moi, je suis comme les Corses, on ne m'intimide pas.
L'ancien candidat à l'élection présidentielle a poursuivi sa déambulation, toujours suivi par la même quinzaine de personnes tenues à distance par un cordon de CRS. Le président du parti Reconquête s'est exprimé sur les réseaux sociaux.
Ma Corse, c'est celle des Corses qui défendent leur identité, pas celle des milices communistes et des punks à chiens qui font honte aux Corses et détestent la France.
Mais l'accueil qui lui a été accordé selon les différents étals du marché était plutôt mitigé. Une enquête pour violence en réunion avec armes a été ouverte selon le procureur d'Ajaccio. En revanche, pour le moment, aucune plainte n'a été déposée concernant le coup qu'aurait porté Éric Zemmour à la femme.
Il y a donc ces faits regrettable, condamnable. Et il y a aussi le traitement médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire qui est questionnable parce qu'on a vu des médias aller plutôt sur une partie de ce qui s'était passé en occultant, volontairement ou pas, j'ai ma petite idée, ce qui avait pu se passer avant. Kevin Bossuet, lorsque vous avez vu la façon dont la presse s'est fait l'écho de cette affaire, est-ce que vous aussi vous avez pensé qu'il y a eu une sorte de biais ?
Il y a eu une manipulation. Éric Zemmour a été victime d'une agression physique. On s'en est pris à un homme politique de grande envergure. Moi, j'attendais naïvement que beaucoup d'hommes politiques se lèvent pour condamner ce geste, que les médias en parlent de manière impartiale. Mais non, ils ont eu un biais qui est un biais malhonnête. On a voulu faire passer Éric Zemmour pour un coupable, alors qu'il n'est ici qu'une victime. Et on sent bien que l'extrême gauche, ici, ne sait pas débattre, ne veut pas débattre, n'accepte pas la démocratie. Il y a des gens dans ce pays qui refusent de débattre, qui préfèrent frapper, taper, insulter, humilier, salir, pour empêcher leurs ennemis, leurs adversaires de pouvoir parler. C'est pareil avec CNews. Vous avez des gens, en effet, qui n'aiment pas cette chaîne. Au lieu de venir débattre ici, non, il faut fermer la chaîne. C'est du totalitarisme, c'est du sectarisme, c'est du bolchevisme. Et j'ai une pensée aussi pour tous ces militants dont on ne parle jamais, qui sont au Rassemblement National, à Reconquête, qui sont aux Républicains et qui subissent parfois les conséquences de leur engagement politique. Ils se font virer de leur travail, ils perdent des amis, ils se font insulter. On n'en parle jamais. C'est-à-dire que les gens qui font vivre dans notre pays, qui font vivre le pluralisme, finalement, ils sont caricaturés, ils sont discriminés. Et aujourd'hui, s'exprimer dans notre pays est devenu dangereux. Mais qu'avons-nous fait de notre démocratie ? Qu'avons-nous fait de notre République ?
On va le voir d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, avec le cas de Colombe. Vous l'avez vu, cette femme qui a accordé une interview et qui depuis a été écartée des Restos du Cœur où elle était bénévole, sans doute simplement pour son orientation politique, ce qui a là aussi de quoi nous poser quelques questions. On verra aussi dans un instant, puisqu'on va marquer une pause, d'autres événements qui ont été perturbés. Ça a été le cas à Lille, à Perpignan ce week-end, où là encore une poignée de militants d'extrême gauche sont venus empêcher le débat, une forme de censure. On en parle dans quelques minutes, juste après la pause. A tout de suite dans Midi News Weekend. De retour dans Midi News Weekend, on est ensemble jusqu'à 13h pour décrypter l'actualité. Dans quelques instants, on revient sur les perturbations de certains événements par des militants d'extrême gauche. Mais d'abord, un nouveau point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
Xi Jinping attendu cet après-midi à Paris. Il sera accueilli par Gabriel Attal à l'aéroport d'Orly. Le président chinois vient célébrer 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises. L'occasion également d'aborder la guerre en Ukraine, la Chine étant le principal allié de Vladimir Poutine. Ce déplacement a provoqué la colère de la communauté ouïghour française, pour qui cette visite est un encouragement à l'oppression chinoise. Après un premier tour de discussion hier au Caire, Israël et le Hamas ont de nouveau affiché leurs profondes divergences en vue d'une trêve. Les négociations en présence d'une délégation du Hamas et des représentants des pays médiateurs se poursuivent aujourd'hui. Et puis ces images splendides capturées sur l'île grecque de Chios à l'occasion de la messe orthodoxe de Pâques. La nuit dernière, le ciel s'est illuminé de flots de lumière, des tirs de fusées artisanales provenant de deux églises rivales. Une tradition annuelle qui remonte à 1889 lorsque les occupants ottomans avaient confisqué des canons aux insulaires. Un moment fort, tant pour les croyants que pour les touristes.
Image impressionnante. À tout à l'heure, Isabelle, pour un nouveau point sur l'info. On en parlait avant la pause. Éric Zemmour a donc été victime d'une agression en Corse, mais je vous le disais, il y a eu d'autres événements qui ont été perturbés ce week-end. Ce fut le cas à Lille ou encore à Perpignan, et vous allez le voir sur ces images. Ce sont des rassemblements, des conférences qui ont été perturbées. Les images que vous voyez se sont donc déroulées à Lille. Une soirée des droites qui a été visé par des tirs de mortier, semble-t-il par des militants d'extrême gauche. Et puis ce samedi, c'est une conférence à Perpignan à laquelle participaient notamment Michel Onfray et Éric Nolot, qui a été perturbé là aussi par des militants qui ont brandi des pancartes pour tenter d'interrompre cette conférence de presse. Patrice Arditi, le fait que des militants se mobilisent pour tenter d'empêcher le débat, le pluralisme, qu'est-ce que ça dit aussi de cette intolérance qu'on voit dans les universités, on en parlera tout à l'heure, mais plus généralement dans le débat public aujourd'hui, il y a une partie des militants qui ne veut plus entendre des voix dissonantes.
Vous avez prononcé le mot le plus important, intolérance. Intolérance, mais auparavant, il y a surtout incompréhension. à partir du moment où nous avons un pays qui est quand même relativement évolué, très évolué, le fait qu'il puisse y avoir dans certains cas de liberté d'expression, c'est une catastrophe. Ça nous range à des pays qui, avant, avaient la connotation tiers-monde. Moi, je suis désolé, on n'est pas un pays du tiers-monde. Qu'est-ce qu'on entend ? Le mot facho, là, parce que pour Onfray ou pour Zemmour, c'est facho, casse-toi. Le mot facho, il signifiait quelque chose que tout le monde connaît avant et qui était lié très souvent à l'extrême droite, et ça a complètement été modifié. Maintenant, le mot facho, c'est un extrémiste. C'est un extrémiste, donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec ce que l'on peut penser. Pour Onfray, on l'a traité de facho, mais franchement, en cours de récréation, si nous avions des gens probablement de LFI en train de crier à Onfray facho, Onfray pourrait répéter c'est celui qui dit qui est. Voilà, on en est là.
Et puis, dans la bouche de ces militants d'extrême-gauche, tout ce qui est à droite de Mélenchon, finalement, c'est facho. Et alors, je voulais vous interroger, Judith, sur le débat. On voit une forme d'impossibilité du débat, parfois, alors que le débat, si on suit le sens strictement étymologique, débattre, c'est ne pas se battre, et justement éviter la violence.
Oui, et de la même façon, la démocratie est le mode de résolution pacifique des conflits. Elle aussi sert à éviter la violence. Donc, on ne commet pas d'abus quand on considère que les gens qui commettent des violences au nom de leurs idées, au nom même de leur morale d'ailleurs, parce que ce à quoi on assiste, c'est l'intrusion de la morale, la légitimation de l'argument moral en politique, et bien ces gens-là s'excluent. De même, pour reprendre la formule stalinienne, de la démocratie, et sont au propre sens du terme, totalitaire. Ils sont dans une démarche totalitaire. On inverse les victimes et les coupables. Vous avez parlé tout à l'heure de la présentation médiatique. Vous disiez dans certains médias, soyons plus précis, dans le service public, de ce qui est arrivé à Éric Zemmour, victime de la violence d'une femme qui, parce qu'elle se sentait, parce qu'elle revendique d'appartenir au camp du bien, se sent autorisée à commettre ce qui est légalement interdit en France, c'est-à-dire à écraser, à commettre une violence sur quelqu'un. Alors, un œuf, on dit un œuf, je vous assure que, même une tarte à la crème, d'ailleurs, quand vous recevez, dans ce contexte-là, avec cette violence-là, un objet quel qu'il soit, c'est un acte de violence.
Mais c'est pas tant l'œuf, ça pouvait être autre chose.
Exactement, caractérisé. Donc, on assiste à cette inversion qui est légitimée. Alors on va encore parler d'elle, par notamment la France insoumise, qui considère que, certes, la violence physique, c'est pas bien, mais enfin, la violence sociale, la violence politique justifie qu'on réponde par des coups.
On a parfois pointé le fait que la société s'américanisait d'une certaine manière et qu'on n'avait plus la possibilité de débattre. C'est beaucoup ce qu'on a dit pour les universités. Est-ce que vous voyez, vous, un retour de la violence politique au sens, le fait d'éteindre le débat, d'empêcher le débat ?
Alors, non seulement je la vois, mais certains des spécialistes comme Isabelle Sommier, qui est un professeur en sociologie, qui a écrit un ouvrage sur les violences en politique, notent une montée depuis le début du XXIIIe siècle des violences en politique. Il y en a toujours eu, mais il y a eu une montée. Pourquoi il y a eu une montée ? Parce que il y a une volonté par certains intellectuels de gauche. Je vais prendre Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, il a formaté des générations d'enseignants qui aujourd'hui sont des enseignants en faculté. Que disait-il ? La violence permet d'accoucher d'une humanité nouvelle. Et donc, il justifiait la violence. Qui se souvient que Jean-Paul Sartre justifiait les abominables attentats à Munich ? Quand les Israéliens se sont fait, les 11 Israéliens qui ont trouvé la mort par un attentat palestinien de septembre noir à Munich, 10 jours après, Jean-Paul Sartre écrivait, en les justifiant, que c'était la force légitime de la haine, la force de la haine. Ils ont employé la force de la haine et on voit très bien comment un certain nombre de gens sont imbibés idéologiquement en disant par la violence, on va faire accoucher un nouveau monde et comme nous sommes le camp du bien, c'est forcément bien. C'est très exactement ce que faisaient alors les vrais fachos, le fascisme mussolinien, qui est quand même à l'origine un socialiste d'ailleurs, c'est j'emploie la violence parce que je vais faire naître un homme nouveau, meilleur. Un monde nouveau. Le communisme a fait pareil. C'est derrière toujours la dictature. Ce sont les moyens du terrorisme intellectuel.
Alors il y a la violence et il y a cette intolérance aussi que l'on voit avec l'exemple de Colombe. Alors Colombe, Si ça vous a échappé, c'est une femme qui a été interrogée lors d'un meeting du Rassemblement national. Elle expliquait les raisons qui l'avaient conduite à voter à plusieurs reprises pour le Front national puis le Rassemblement national. Et dès lors, son témoignage a bouleversé beaucoup de téléspectateurs. Même à gauche, d'ailleurs, certains ont dit qu'il fallait tenter de convaincre ces électorats qui échappaient depuis quelques années à la gauche. Et on a appris ce week-end, lors d'une interview dans le Figaro, que Colombe avait été exclue des Restos du Cœur, où elle était bénévole. Alors, il y avait plusieurs versions qui se sont opposées. Certains avaient dit qu'elle avait simplement démissionné. Mais finalement, elle a bien confirmé qu'elle avait été poussée vers la sortie. Et c'est Raphaël Steinville qui l'a répété encore ce matin sur le plateau d'Éliott Deval dans l'heure des pros. Écoutez.
C'est bien la direction, ainsi qu'elle a pu me le confirmer, qui lui a forcé la main, qui l'a forcé à écrire cette lettre de démission, la contraignant à renoncer à ce bénévolat. C'est une femme qui est très engagée dans beaucoup d'associations caritatives, les Restos du Cœur, l'Ordre de Malte, et qui aujourd'hui voit sa vie complètement chamboulée pour avoir juste poussé un cri du cœur, un cri de détresse.
Est-ce que cette histoire, je dis de l'introbe, illustre à nouveau une forme de police de la pensée, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans ce que les gens attendent de la pensée correcte, entre guillemets, gros guillemets, eh bien vous êtes sanctionné d'une façon ou d'une autre?
J'espère que désormais, les Restos du Cœur vont demander à leurs donateurs, à ces millions de gens qui donnent de l'argent quand ils font des campagnes ou alors qu'ils le font indirectement, pour qui ils votent. Il n'y a pas de raison. Puisqu'on refuse une bénévole, parce qu'il n'y a pas trop plein de bénévoles au Resto du Cœur, hein. Puisqu'on refuse quelqu'un au prétexte de son vote, il faut être cohérent et refuser l'argent de ces gens-là. Les Restos du Cœur, ils sont restés sur un logiciel des années 80 qui diabolisait le RN sur Jean-Marie Le Pen. Ils n'ont pas du tout compris que le discours du Rassemblement national n'avait rien à voir avec celui de Jean-Marie Le Pen. Ils n'étaient pas... Non, on pourrait comprendre...
Ça n'a pas d'impact sur son acte de bénévolat, le fait d'avoir un engagement politique, on voit pas trop le lien.
On pourrait comprendre que si elle se référait à un discours clairement antisémite, alors oui, hier Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui un certain discours de la France insoumise, le Resto du Cœur n'est pas envie que leur image soit associée à ça. Ça, je pourrais tout à fait le comprendre. Mais en l'occurrence, elle représente ces millions de gens qui ont des problèmes économiques énormes, qui se sentent délaissés, méprisés par une partie de la classe politique. Bref, cet électorat populaire qui va depuis plus d'une décennie vers le Rassemblement national.
Kevin.
Oui, moi j'ai été évidemment extrêmement choqué. Je vais reprendre le slogan des Restos du Cœur. On compte sur vous. Apparemment, on ne compte pas sur vous quand vous votez pour le Rassemblement national ou quand vous êtes adhérent au Rassemblement national. Et je peux vous dire une chose, ils ne compteront plus sur moi non plus. Parce qu'il m'est arrivé de donner au Resto du Cœur, je ne donnerai plus au Resto du Cœur. Ce qui est arrivé à Colombe est juste honteux. Colombe incarne cette France délaissée, cette France qui souffre, cette France victime de la mondialisation, cette France qui a perdu la gauche, notamment à cause de son sectarisme et à cause de son totalitarisme. On est quand même dans une société où finalement, quand on met en avant ses opinions politiques, on a peur d'être discriminé. Quand vous passez un concours, par exemple, de la fonction publique, il y a certaines personnes qui se disent, est-ce qu'en fonction des membres qui composent le jury, je vais être évalué en fonction de mes compétences où je vais être évalué en fonction de mes opinions politiques. C'est pareil quand vous passez devant un tribunal, en fonction du juge, est-ce que je vais être discriminé ou pas ? Et c'est tout le temps comme ça. On parle en France d'un système démocratique, on parle tout le temps de la République, de la République, de la République, sauf qu'il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est des discriminations cachées en fonction des opinions que l'on a et en fonction du positionnement politique que l'on a.
Et c'est à sens unique, disons-le. D'ailleurs, Colombe, on va peut-être le voir, a reçu le soutien de Marine Le Pen, qui a écrit un message sur le réseau social X pour soutenir Colombe. Mais Joseph Touvenel, toujours sur cette... émotion que ça suscite aussi, parce que on voit une femme qui a simplement donné ses opinions politiques à un média et qui se trouve à être sanctionnée. Et on le voit, le tweet de Marine Le Pen à l'image.
Mais c'est une femme. Alors elle donne ses opinions politiques surtout Elle donne un cri d'une France qui souffre, en expliquant pourquoi. Après, cette France qui souffre, elle peut voter RN, elle peut voter autre chose. Et ce qu'on a à prendre en compte, c'est cette France qui souffre, elle a 60 ans, elle n'a pas de travail, elle dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine. Et que fait-elle de ses journées? Elle va aider au Resto du Cœur depuis des dizaines d'années. Elle va aider à l'Ordre de Malte, donc elle est citoyenne. Et là, les Restos du Cœur nous disent, je fais des tris dans les citoyens, il y a les bons, il y a les mauvais. Non, il y a des citoyens. Et si les Restos du Cœur veulent commencer à faire du tri, alors qui m'explique pourquoi ils laissent dans les Restos du Cœur des femmes voilées? Parce que leur explication, c'est de dire, ah oui, mais ça touche à la neutralité. Non, elle n'a pas touché à la neutralité. Et ce qui est au contraire bien dans une société qui est une société véritablement démocratique, c'est que des gens d'opinions différentes puissent travailler ensemble, puissent faire du bien ensemble. Et là, les Restos du Cœur nous disent, ben, nous, on va faire le tri entre ceux qui peuvent le faire, ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est absolument indécent. Et cette femme, c'est ce cri du cœur. Arnaud Benedetti disait ce matin sur cette chaîne qu'il avait le témoignage de quelqu'un qui disait à propos du Rassemblement National, le seul parti qui n'a pas honte de nous. Eh ben, tous ceux qui se disent proches de la classe ouvrière, des malheureux et des pauvres, n'ayez plus honte de ces pauvres, n'ayez plus honte de ces malheureux, n'ayez plus honte de cette femme de 60 ans qui n'a plus d'emploi, allez travailler avec elle, on s'en portera mieux.
Pour finir, Patrice Arditi, pour reprendre un slogan comme l'a fait Kevin Bossuet, aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, sauf si on vote Jordan Bardella.
Je ne sais pas s'il faut généraliser, je pense que si elle avait été chez les Républicains, il y aurait eu à peu près le même... je crois qu'il y aurait eu la même chose, les mêmes cris d'orfraie. On a un symbole maintenant, on a un symbole, le symbole d'une personne qui souffre et qui a clamé par voie de médias qu'elle souffrait, qu'elle était démunie. Ce qui est épouvantable, c'est que cette femme, elle n'a rien et elle donne aux autres. Ce qui est quand même quelque chose d'énorme et on n'est pas beaucoup sur Terre à faire ce genre de choses. Alors qu'elle aille au Rassemblement National ou à Kouskounjouk, ça n'a aucune importance. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est le passé de cette femme. Alors évidemment, je crois que tout le monde est touché. Tout le monde est touché, y compris la gauche qui voit là le danger. Et d'ailleurs, il y avait François Ruffin. Qu'est-ce qu'il a dit ? François Ruffin, il a dit, eh bien, nous devons reconquérir les esprits et les cœurs. Bah oui, mon grand, il faut y aller, mais il ira plus vite. Hein ?
On va passer à toute autre chose maintenant. Dans le journal du dimanche, ce matin, dans l'édition du jour, Éric Ciotti, le patron des Républicains, a fait une série de propositions. En fait, il a envoyé un courrier au président de la République. Ce n'est pas le premier courrier, d'ailleurs, qu'il adresse au chef de l'État ces derniers mois. Cette fois, ça porte sur les sujets de sécurité. Il veut un choc d'autorité et des mesures fortes en matière de sécurité. L'avertissement d'Éric Ciotti à Emmanuel Macron, sans retour de l'autorité, la France est foutue. Voilà le titre du journal du dimanche. Il y a 10 chantiers et 25 mesures qui sont exposées par le patron des Républicains. Je ne vais pas toutes vous les donner ici, mais en voici quelques-unes. Il recommande par exemple des peines planchées dès le premier délit, des courtes peines de prison, la suppression de l'excuse de minorité et l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, la suppression des allocations familiales et du RSA pour les parents de mineurs délinquants en fonction de leur implication. On peut voir aussi qu'il souhaite interdire le réseau social TikTok si celui-ci ne coupe pas ses liens avec les autorités chinoises. Et il souhaite aussi un plan Marshall des prisons pour avoir davantage de places de prison. D'abord, Joseph Touvenel, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? On peut reconnaître le mérite à Éric Ciotti d'avancer des mesures, de proposer des choses de manière très concrète, de ne pas simplement être dans une opposition stérile. Voilà, il y a des propositions qui sont avancées par le patron des Républicains.
Quand j'ai commencé à lire ces propositions, il m'a inquiété parce qu'il parle d'une révolution en matière de sécurité. Il a oublié qu'une révolution, c'était un tour sur soi-même. Oui. Bon, mais en fait, ces propositions, elles sont dans l'opinion publique. D'autres les font, mais c'est bien qu'ils les portent. Un certain nombre sont des propositions de bon sens, mais il est temps de les mettre en place. D'autres sont plus discutables. Moi, je pense à une, c'est par exemple pour les quartiers, une force spéciale d'intervention dans les quartiers. Ça, c'est pas stupide, mais il veut associer à la fois la police avec l'armée. Ce n'est pas le rôle de l'armée de faire la sécurité dans nos quartiers, ou alors on nous dit, nous sommes en guerre et nous avons des ennemis de l'intérieur. Mais c'est autre chose. Non, là où il a raison, c'est qu'il faut associer la police, les douanes, les services fiscaux, et j'allais dire les services sociaux. Parce que les services sociaux, par exemple, quand il y a des gens qui touchent des allocations, mais qui vivent peut-être pas du tout là. Et il est important de savoir qui touche quoi, qui a des aides au logement, et est-ce qu'ils sont véritablement dans le logement. Donc, Il faut travailler. Il a raison d'écrire. C'est son rôle de politique. C'est bien. Ah, il me semble que les LR ont été au pouvoir quand même un certain nombre de temps quand ils ne s'appelaient pas LR et ils n'avaient pas fait grand-chose. S'ils se réveillent, j'en suis content.
C'est souvent l'argument qui leur est opposé. Alors là, Éric Ciotti dit qu'il est prêt à travailler avec le gouvernement et il tend la main d'une certaine manière au chef de l'État. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est aussi un coup politique de la part du patron des Républicains, selon vous?
Bon, franchement, tendre la main, ça n'engage à rien. Il faut vraiment que de l'autre côté, on accepte de la serrer.
Parce que là, on est d'accord.
Alors, Éric Ciotti, c'est quand même quelqu'un d'important. Je veux dire, c'est un homme politique qui a fait ses preuves. Mais là, il surfe sur des vagues inespérées. Parce que prendre comme drapeau l'insécurité, c'est un petit peu facile, mais c'est la réalité. C'est la réalité, la violence des mineurs, le manque de place
en prison. Il y a un consensus sur cette
prison. Évidemment, mais on ne bâtit pas un programme politique uniquement sur l'insécurité. Il faut pas exagérer. Comme disait Joseph, ça fait quand même un certain nombre d'années que pas grand-chose n'a été fait dans ce que demande Éric Ciotti. Je veux dire, il n'a rien inventé. Il a mis des choses bout à bout qui peuvent rassurer si c'est accompli. Mais on en tombe toujours sur le même dilemme. Où sont les moyens?
Oui, mais alors, rien n'a été fait, nous dit Patrice Arditi. Là, il y a une marche à suivre, une feuille de route de la part d'Éric Ciotti avec des mesures claires, notamment en matière de réponse pénale. Et on sait que ça fait consensus. Lorsqu'on interroge les Français, globalement, vous avez entre 70 et 80% des Français qui sont favorables à des mesures plus fermes en matière de réponse pénale.
Mais c'est justement parce que ça fait consensus qu'Éric Ciotti prend cette forme un peu solennelle d'écrire à Emmanuel Macron, de le faire savoir. Il ne faut pas oublier que les Républicains se sont fait avoir une fois récemment sur la loi immigration qui reprenait l'essentiel de leurs propositions, puisqu'en fait c'était la majorité sénatoriale qui est à droite qui était l'auteur du texte transmis à l'Assemblée. Et en fait, ils se sont fait avoir puisque le Conseil constitutionnel, avec la bénédiction d'Emmanuel Macron, on ne sait pas si c'est juste la bénédiction, si ça a été préparé à l'avance, a retiré du texte les mesures les plus efficaces. Donc Éric Ciotti ne veut pas que ça recommence avec ces mesures de lutte contre...
Vous ne croyez pas à sa sincérité politique ?
Ça n'empêche pas d'être lucide sur son poids politique. Emmanuel Macron pratique habituellement ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire battre l'adversaire en lui prenant ses idées. Vu l'état de la droite, elle a intérêt à marquer ses petites affaires, je crois.
On voit que le Premier ministre en ce moment est en train de consulter assez largement les formations politiques sur la question particulièrement de la violence des mineurs et donc sur les sujets de sécurité, d'autorité. Avant de vous donner la parole, Kevin, on va voir ce sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD avec cette question qui a été posée aux Français, question assez simple. Est-ce qu'il faut systématiquement incarcérer les auteurs de violences physiques en attendant leur jugement? Et vous voyez, le résultat est sans appel. 81% des Français interrogés disent oui, 18% disent non. Et en fait, ce qu'on voit même dans le détail, c'est que même les électeurs de gauche sont une large majorité à réclamer cette mesure. Alors cette mesure-là est assez emblématique, l'incarcération automatique et systématique en attente du jugement, mais il y a tout un tas de mesures qui sont réclamées, plébiscitées par les Français, dont certaines sont celles qui sont exposées par Éric Ciotti. Est-ce que, selon vous, le gouvernement doit répondre à cette attente des Français en matière de sécurité?
C'est évident, ce sondage révèle une chose, c'est que les Français veulent une justice qui punit, mais également une justice qui protège. Il est parfaitement anormal qu'il y ait dans notre société des gens extrêmement dangereux qui soient laissés comme ça à l'air libre. On l'a vu par exemple avec Matisse, ce jeune Afghan était connu pour être dangereux. Qu'est-ce qu'il faisait, en effet, dans la nature? Après, pour en revenir à votre question, Thomas, sur Gabriel Attal. Gabriel Attal est quelqu'un de très intelligent, qui comprend ce qui se passe dans la société française. Moi, quand je l'écoute, je me dis quel pragmatisme et parfois même quel courage, parce qu'il met en avant dans son propre camp des thématiques qui sont méprisées ou qui sont ignorées. Mais à un moment, il faut passer à l'action. Et j'ai l'impression que M. Attal est un petit peu un ministre empêché, parce qu'il est entouré de gens au gouvernement, et peut-être au-dessus à l'Élysée, de gens qui sont sans arrêt dans la culture de l'excuse. Il faut donner une seconde chance aux délinquants. Il ne faut surtout pas remettre en cause le régime diversitaire. D'ailleurs, M. Attal n'a pas choisi Mme Belloubet. Et parfois, on sent bien qu'il y a des distorsions. Bref, quand on veut vraiment lutter contre le Rassemblement national, parce qu'apparemment, c'est l'objectif ultime de Renaissance, on commence par traiter les problèmes. Sinon, on laisse la voie libre au populisme et on laisse la voie libre à des gens qui ont un autre programme politique auquel les Français adhèrent de plus en plus parce que le sentiment qui domine, c'est l'abandon.
Il nous reste 3 minutes avant la pause. Je voulais qu'on aborde un sujet un peu plus léger, encore que vous avez sans doute vu qu'Emmanuel Macron a accordé une longue interview à nos confrères de la Tribune Dimanche et de la Provence. Et au cours de cette interview, il a été interrogé, vous savez, sur cette règle qui contraint le chef de l'État à ne pas enchaîner plus de 2 mandats successifs. Et donc on lui a posé la question, est-ce qu'il regrettait d'une certaine manière de ne pas pouvoir se représenter en 2027? Voilà ce que répond le chef de l'État sur cette fameuse règle, donc de 2 mandats maximum. Cette règle est là et je ne vais pas changer la Constitution. Si vous me demandez mon avis personnel, je pense que c'est toujours mieux quand on laisse le choix aux électeurs. Je suis pour le renouvellement en politique et j'ai porté la limitation du nombre de mandats dans le temps, donc je ne suis pas forcément en train de vous dire que j'aurais aimé être candidat à un 3e mandat. Je pense qu'avec le recul qui est aujourd'hui le nôtre, que quand on met des interdictions dans la loi, on capture en quelque sorte une part de la liberté des électeurs qui sont souverains. Et puis il se projette un petit peu sur 2027 en disant que les pouvoirs du président de la République, de la Constitution et de la 5e République sont forts. Les formations de la majorité sont loyales et engagées. Dans mes responsabilités, il y aura celle de préparer la suite et de garder la force et l'unité de ce bloc central né en 2017. Joseph Tounel, que vous inspire ces déclarations presque philosophiques du chef de l'État
presque
sur ces
presque testamentaires.
Oui, parce que philosophique, je ne sais pas, mais il reconnaît qu'il a eu tort. C'est déjà bien, mais au lieu de nous avoir fait voter un mauvais texte, il aurait mieux fait de se retenir, comme sur d'autres textes.
Vous étiez pour plus de 2 mandats ?
Mais non, mais c'est la démocratie, c'est le peuple qui doit décider. Si on a envie de voter pour quelqu'un, on vote pour 2, 3 ou 4 mandats. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la démocratie, et là, on nous l'enferme. Mais puisqu'il dit que le peuple doit être écouté, alors qu'il ait le courage de revenir sur ce référendum où le peuple avait pris des décisions et où, y compris les amis de M. Macron, ont pris les décisions inverses, ça serait vraiment la démocratie.
Mais sur ces 2 mandats, qu'est-ce que ça vous fait sourire ou vous y voyez une forme de regret présidentiel ?
Oh, j'en vois surtout un échec cuisant. Je vois surtout, en effet, quelque chose de testamentaire, comme l'a dit Judith Ventrome. Mais j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit quand même. Le peuple. Si, écoutez, les agriculteurs qui font partie du peuple, c'est nommé à la 4e place de la liste de Renaissance, Pascal Canfin, qui n'est même plus l'incarnation de la bureaucratie, mais de la bourrocratie, pour, en effet, nos agriculteurs qui souffrent énormément de toutes ces normes, de tous ces écolos qui aimeraient mettre en place au niveau européen la décroissance, c'est-à-dire les empêcher de travailler, là, Monsieur Macron n'est plus dans le peuple, il est dans l'idéologie qu'on appelle l'écologisme, qui est vraiment une épine mortifère pour nos agriculteurs qui représentent pourtant en partie la force vive de notre nation.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur les déclarations du président de la République. On y reviendra dans la deuxième partie de cette émission sur un autre sujet. On va marquer une pause. Dans quelques instants, nous serons de retour et on parlera notamment de la riposte de Gérald Darmanin face aux frères musulmans. A tout de suite dans Midi News Weekend. De retour pour la dernière heure de Midi News Weekend, toujours en compagnie de Judith Vintraud, Patrice Arditi, Joseph Touvenel, Kevin Bossuet. Nous avons été rejoints par David Olivier Kaminski, membre du bureau exécutif du CRIF. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans quelques instants, avec vous, on parlera de cette enquête édifiante sur l'antisémitisme en France. Ce sera l'un de nos débats à venir. Mais d'abord, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
L'enquête sur la mort de Naël en juin dernier se poursuit. Une reconstitution des faits a lieu aujourd'hui à Nanterre. On va retrouver notre journaliste police-justice Célia Barotte et Charles Baget. Bonjour à tous les deux. Célia, quels sont les enjeux de cette reconstitution qui, on le rappelle, se déroule sous très haute sécurité ?
Eh bien, l'enjeu est de déterminer si le policier mis en examen était en danger au moment de son tir. Les policiers impliqués, les passagers du véhicule de Naël, mais aussi sa famille et des experts ont été convoqués pour cette reconstitution sous haute sécurité. Les axes routiers aux abords de la place Nelson Mandela sont bloqués. Il y a de nombreux effectifs de gendarmerie, des médiateurs municipaux également sur place pour éviter des débordements. Les deux policiers impliqués dans cette affaire portent un gilet pare-balles pour leur sécurité, mais aussi des cagoules pour préserver leur identité et éviter qu'ils ne soient reconnus ou encore qu'ils ne fassent l'objet de nouvelles menaces. Une reconstitution qui a commencé à 9h et qui devrait prendre une grande partie de la journée et qui se déroule pour le moment dans le calme.
Merci beaucoup pour ces précisions. Célia Barotte et Charles Bagé derrière la caméra. On s'en souvient, la mort de Naël avait engendré de violentes émeutes partout en France. De nombreuses villes étaient plongées dans le chaos, comme Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis. Presque un an après, vous allez le voir, des stigmates sont toujours présents. Reportage de Fabrice Elsner et Clotilde Paillet.
9 mois après les émeutes, le traumatisme est toujours présent à Neuilly-sur-Marne.
On a vu des jeunes qui étaient cachés un peu partout dans les buissons avec des cocktails Molotov et ils ont été interpellés par la police nationale suite à notre alerte. On avait des bastions à défendre. On était dans une ville qu'on pouvait considérer comme étant attaquée, si ce n'est assiégée. Et donc il fallait tenir le fort.
Et certains dégâts sont encore bien visibles.
Police municipale qui a été complètement incendiée. Le rez-de-chaussée, tout le rez-de-chaussée là qui est encore fermé, c'est le service logement. Et en fait, l'incendie a touché l'autre côté. On voit encore les traces sur les murs.
Malgré les dégâts importants dans la ville, certains habitants sont partagés sur la situation.
Je comprends tout à fait que les gens aient été révoltés et que ce soit... Malheureusement, ça s'est manifesté par la révolte. Puisqu'en fait, après, c'est vrai que nous, en tant que Nocéens, en l'occurrence, après, on n'avait pas accès à certains endroits.
Dans ce quartier, ce dealer se confie. Il n'a pas pris part aux émeutes. Si de nouvelles violences éclataient, il y participerait.
C'est un mec comme nous. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un pote à nous et tout. Ça veut dire on se met à la place un peu des jeunes et tout. Ses potes et tout. Je veux dire, en vrai, si le procès, il va du côté des policiers, moi je pense que ça peut recommencer.
Après ces émeutes, le coût des dommages aux biens a été évalué à près d'1 milliard d'euros.
Dans le reste de l'actualité, favoriser les produits alimentaires français est une des volontés du gouvernement pour aider le secteur agricole du pays. Mais dans les supermarchés, la provenance des aliments n'est pas toujours correctement indiquée. Alors les services de la consommation et de la répression des fraudes s'attellent à faire respecter les règles. Illustration à Niort avec Antoine Estève.
Dans ce supermarché de Niort, les inspectrices de la répression des fraudes nous montrent les produits les plus souvent concernés par des irrégularités. La star des étals en ce moment, c'est la fraise. Dans ce rayon, les produits étrangers sont plutôt bien signalés.
Les fraises françaises commencent tout juste à être mises sur le marché. Par contre, les fraises espagnoles et marocaines sont déjà mûres depuis quelques temps. Le prix des fraises françaises est plus cher que le prix des fraises espagnoles. Ils peuvent être tentés de mettre...
Une arnaque fréquemment constatée dans d'autres supermarchés qui mélangent volontairement fraises françaises et fraises espagnoles. Au rayon des kiwis, en revanche, il manque l'indication géographique.
J'ai pris une photo pour bien figer la situation, parce qu'effectivement, il y a bien marqué kiwi vert. Il n'y a pas la catégorie du kiwi, qui est obligatoire elle aussi, et il n'y a pas l'origine.
Pas de sanction aujourd'hui, juste un avertissement. Mais en temps normal, c'est une amende de 5e catégorie, jusqu'à 1 500 € par infraction. La plupart des consommateurs affirment qu'ils regardent autant l'origine des produits que leur prix.
J'en regarde et là je viens d'acheter des poires qui viennent d'Israël ou je ne sais pas quoi, enfin je suis surprise, mais bon.
Je achète plutôt français et j'essaie d'acheter bio quand c'est possible et régional aussi.
La répression des fraudes ne dresse pas de procès-verbal systématiquement. Ici, c'est juste un rappel à l'ordre.
Un produit italien qui est estampillé espagnol n'est pas du tout dans la transparence.
Ça peut arriver qu'on oublie certaines choses et qui peuvent être importantes pour le consommateur. Ça, c'est le point le plus important.
D'accord.
Et que le prix affiché soit bien le même qui passe en caisse.
Plus de 10 000 établissements sont contrôlés chaque année. 40% d'entre eux présentent des anomalies dans l'étiquetage et dans la présentation des produits alimentaires.
Je vous retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. La suite, c'est avec vous, Thomas.
Merci Isabelle. À tout à l'heure. Je vous le disais, on va désormais aborder cet entretien, ces confessions très intéressantes du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ça se passe dans les colonnes du journal du dimanche. Il revient sur la menace que font peser les frères musulmans et annonce également quelles peuvent être les solutions que peut apporter le gouvernement face à cette menace. Alors d'abord, sur le détail autour de cette menace, on va lire ce qu'a dit Gérald Darmanin. Ils attaquent, dit-il, tous les pans de la société et se constituent en réseau. Il parle des frères musulmans, bien sûr. Le sport, l'éducation, la médecine, la justice, les organisations syndicales et étudiantes. Ils donnent des consignes de vote, soutiennent des commerces communautaires, usent d'une rhétorique anti-française. Regardez à quelle vitesse nous avons adopté le mot islamophobie dans notre vocabulaire quotidien. Ce mot est le leur et il recouvre leur stratégie première, celle de la victimisation. C'est très intéressant d'entendre le ministre de l'Intérieur, Judith Vintraube, détailler à ce point la stratégie adoptée par les frères musulmans. C'est assez rare finalement d'entendre un responsable politique, surtout en responsabilité, détailler à ce point les mécanismes qui sont en œuvre.
Oui, c'est assez rare. Et puis le hasard veut, parce que je n'étais pas du tout au courant de cette interview de Gérald Darmanin donnée au JDD, que le Figaro Magazine de ce week-end a fait sa couverture sur l'islamisation de la France dans à peu près tous les domaines, que ce soit à l'hôpital, à l'école. Je ne vais pas reprendre l'énumération qu'a faite Gérald Darmanin, mais on est allé recueillir des témoignages. On a demandé à Denis Maillard, qui est un expert des relations sociales, comment l'islam militant, c'est-à-dire l'islam prosélyte qui veut changer les mœurs, la culture française, les modifier pour être charia compatible, cause des problèmes et des conflits dans le monde du travail et à l'école et à l'université. Bref, tout ce qu'on connaît. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans l'interview donnée par Gérald Darmanin au JDD, c'est qu'il commence par dire « nous on sait ». On est au courant. Si on fait un rapport, si on demande un rapport, puisque c'est Emmanuel Macron qui a demandé au ministère de l'Intérieur de faire ce rapport, c'est pas pour découvrir le sujet, mais c'est pour convaincre les autres, les administrations, les milieux universitaires, enfin les Français dans leur ensemble, que le phénomène existe et qu'il est gravissime. Moi, ça me... bon, tant mieux. Nous, journalistes, on fait le boulot depuis quelques décennies. Florence Bergeau-Blaclair, oui, qui a écrit « Le frérisme et ses réseaux » récemment, qui ne peut pas parler de ses travaux dans le monde universitaire parce qu'elle est traitée d'islamophobe, évidemment, de raciste, se reconnaît tout à fait, ou plutôt reconnaît tout à fait son travail dans ce que Gérald Darmanin aujourd'hui, mais il ne la cite pas.
Non, mais alors, c'est vrai, vous avez raison, elle l'a mis sur les réseaux sociaux, qu'elle partageait le constat.
Mais à juste titre, quand on connaît son travail...
Absolument. Ouais. On va rejoindre justement un autre expert de la question, il s'agit de Mickaël Prazan, qui est en direct avec nous, réalisateur, écrivain, auteur notamment du livre « Frères musulmans, enquête sur la dernière idéologie totalitaire ». Bonjour Mickaël Prazan, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous diriez d'abord, dans un premier temps, que le constat qui a été dressé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est le bon, est conforme à ce que vous aussi, vous avez pu constater?
Oui, c'est un constat qui est très juste et qui est très clair et clairement exprimé dans tous les domaines, que ce soit l'entrisme, que ce soit d'ailleurs les mots qu'ils ont réussi à imposer dans le vocabulaire, la victimisation, et puis les grands marqueurs qui inscrivent leur présence dans l'espace social, et notamment le port du voile, dont il est d'ailleurs dit dans l'article qu'il a doublé en très peu d'années. Sachant qu'il y a aussi, si vous voulez, aujourd'hui, au vu des derniers sondages qui avaient été effectués il y a quelques temps, un jeune sur deux qui s'identifie davantage à la charia qu'à la République. Tout ça, c'est le résultat d'un gros travail effectué par les frères musulmans en France, et d'ailleurs plus largement en Europe, depuis le début des années 80. Alors évidemment, le constat est juste, mais il est très tardif. Parce qu'on a beaucoup louvoyé avec les frères musulmans, on a aussi voulu les utiliser, notamment après les émeutes de 2005, pour acheter d'une certaine manière la paix sociale. On a pactisé avec eux, on les connaissait mal, ils présentaient bien, ils portaient la cravate, et on s'est dit que tout cela allait finalement apaiser les banlieues et jouer en la faveur, disons, d'une meilleure intégration. C'était évidemment faire entrer le loup dans la bergerie.
Restez avec nous, si vous voulez bien, Mickaël Prazan. On va ouvrir le débat ici en plateau. Joseph Tounel, il est aussi expliqué dans cet article que la dynamique est plutôt à l'expansion du nombre d'adeptes des frères musulmans. L'article cite les services de renseignement en disant qu'entre 2019 et aujourd'hui, on est passé en clair de 50 000 à 100 000 adeptes de l'idéologie des frères musulmans en France. Ça veut dire que le problème prend de l'ampleur.
Et d'ailleurs, leur succès, on peut le voir, il suffit de se promener dans la rue, de voir le changement dans certains quartiers, notamment de femmes voilées, et on voit très bien qu'il y a une pénétration considérable. Puis il y a un secteur... Alors d'abord, c'est bien que Darmanin dise les choses. Il n'est jamais trop tard pour dire les choses exactement. Et par exemple, le secteur du syndicalisme, que je connais bien... Il y a une pénétration aussi, parce qu'il y a une pénétration dans tous les lieux qui peuvent influencer. Et dans le syndicalisme, on l'a vu de façon un peu caricaturale, mais très dangereuse, il y a quelques années, sur la plateforme de Roissy, où là, le ménage a été fait, parce que vous comprenez que si vous mettez des islamistes à contrôler les bagages pour éviter qu'il y ait des bombes, mais je le vois dans le syndicalisme toujours, et c'est très difficile, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est musulman ou d'origine musulmane, qui s'engage dans une action tout à fait normale, au service des autres. Et puis vous avez ceux qui vont intentionnellement pour prendre des postes, pour grimper dans les hiérarchies et pour contrôler. Et on a un exemple, qui est un mauvais exemple en Allemagne, où je vois dans le syndicalisme allemand une pénétration islamiste, donc avec aussi les frères musulmans derrière, avec beaucoup d'intelligence. Et une fois qu'ils ont pris des postes de pouvoir, ils verrouillent par des embauches, par ceux qui vont aider, ils verrouillent aussi par toute l'idéologie qu'ils influent dans le pays, avec des moyens. N'oubliez pas que quand on contrôle, par exemple, ce qu'on appelait un comité d'entreprise, on contrôle des finances. Et ils savent très bien les utiliser. Dès qu'ils ont mis la main sur les finances, ils savent les utiliser. Darmanin a raison, il n'est pas le seul. Mais les frères musulmans sont interdits dans un certain nombre de pays musulmans. Qu'attend-on pour les interdire en France ?
Alors, Darmanin vous répondra, d'ailleurs, dans cette interview, il dit que l'interdiction n'est pas la solution, finalement, parce que...
L'Autriche l'a fait. Oui, alors, pas voilà. Avec et l'interdiction des frères.
Il dit que ça n'empêchera pas l'évolution. Bon, alors, c'est son argument.
Ce n'est pas la solution, c'est une partie de la solution.
En tout cas, vous parlez de l'Allemagne, ça nous renvoie à ces images qu'on a vues à Hambourg récemment, de cette manifestation islamiste, il n'y a pas d'autre terme, où ils voulaient imposer la charia en Allemagne. Et d'ailleurs, dans cette interview, Kevin Bossuet, Gérald Darmanin parle de cette charia compatibilité. C'est ce que veulent imposer les frères musulmans en redéfinissant les normes sociales, c'est-à-dire en fait bouleverser complètement les valeurs et les équilibres qui font notre République.
Oui, déjà,
notre pays.
Oui.
Notre pays même.
Ouais. Déjà, il faut saluer le courage de Gérald Darmanin, quand même, qui dit des choses qui sont justes, et j'ai trouvé cette interview lumineuse. Ensuite, pour répondre à votre question, on peut peut-être prendre l'exemple des universités. Parce que depuis plusieurs jours, on parle beaucoup de l'œuvre du wokisme, mais il faut parler aussi de l'œuvre du frérisme. On essaye d'instiller au sein de l'université, notamment d'autres valeurs qui vont à l'encontre des valeurs de la République et qui vont à l'encontre des valeurs de la liberté d'académique, de la liberté d'expression. Et regardez ce qui se passe. Beaucoup d'islamistes essayent d'effacer de l'espace public les juifs ou les signes de judéité. Regardez ce qui se passe à Sciences Po. Quand vous avez un avis modéré sur le conflit israélo-palestinien ou quand vous êtes juif, on vous insulte de sioniste, on vous demande de vous taire au sein de l'école de la République. Pourquoi beaucoup d'islamistes font pression, par exemple sur les professeurs d'histoire, pour qu'ils évitent de trop parler de la Shoah, pour effacer cette partie-là, en effet, de notre mémoire collective. Mais c'est également vrai dans nos rues. Je veux dire, l'antisémitisme dont nous allons parler tout à l'heure, c'est aussi une volonté totalitaire d'effacer la kippa, d'effacer les mitzvot, d'effacer les revendications, d'effacer l'identité des juifs de notre espace. Et de l'autre côté, on voit de plus en plus de femmes voilées à l'université, de femmes voilées dans nos rues. Tout ça, c'est stratégique. Et Madame Bergeau-Blaclair l'a très bien montré aussi pour le halal. Le but, évidemment, c'est de montrer la présence de revendications religieuses à travers, par exemple, l'alimentation. Et quand vous allez dans certains supermarchés, notamment pendant le ramadan, il y a tout un rayon complet consacré à cette pratique alimentaire religieuse.
Michael Prasant, vous êtes toujours en direct avec nous. On est d'accord sur le constat, a priori. En tout cas, vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce que, en revanche, en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement, là, vous pensez que ça va assez loin, Gérald Darmanin, mais notamment en avant la loi séparatisme ou l'expulsion des imams qui ne respectent pas les règles? Est-ce que là, vous pensez que la réponse est à la hauteur?
La réponse peut être difficilement à la hauteur parce qu'elle est très tardive, mais ce qui est important déjà, c'est que le constat soit juste et soit clair, et ça, c'est quand même une bonne chose. Vous parliez tout à l'heure de 100 000 membres des Frères musulmans en France. En réalité, c'est un nombre trompe-l'œil. Ces 100 000 personnes, c'est ceux qui viennent chaque année à la RAMF, vous savez, le grand rassemblement des musulmans de France, organisé par l'ex-UOIF, donc par les Frères musulmans français, et qui rassemble 100 000 visiteurs chaque année au printemps, au Bourget, et puis maintenant aussi à Lille. En réalité, les chiffres sont bien plus vastes, parce qu'il y a un phénomène. Vous savez, les Frères musulmans sont des pragmatiques, ils savent s'adapter, ils ont souvent un coup d'avance, et aujourd'hui, pour paraphraser Gilles Kepel, on a un frérisme d'atmosphère qui passe notamment par les réseaux sociaux, qui passe par un certain nombre d'influenceurs, entre guillemets, et qui diffuse sans affiliation véritable ni identifiable la bonne parole des Frères musulmans. Quand vous entendez ces petites élèves à la sortie en abaya des lycées qui parle par exemple de voile légiféré. Ce mot légiféré, c'est des mots colportés par ces influenceurs islamistes, fréristes, sur les réseaux sociaux. Ça ne vient pas d'eux. Donc il y a d'autres influences qui passent par-dessus une détection très visible, qui passent au-delà, disons, des centaines de ramifications associatives liées aux Frères musulmans. Et lorsque tout à l'heure vous parliez aussi des manifestations, disons, pro-palestiniennes, souvent pro-Hamas, elles sont évidemment aussi infiltrées et financées par le Qatar. Il ne faut pas oublier que le Qatar est l'un des principaux, sinon le principal financier de tous les mouvements fréristes dans le monde. Je rappelle par ailleurs que le Hamas, c'est la branche palestinienne des Frères musulmans, l'enfant chéri de la confrérie, qui est aujourd'hui présent dans 80-82 pays dans le monde et qui fait une offensive véritable et très très, très importante sur les campus américains et sur la jeunesse en général. Lorsque dans les premières manifestations de soutien aux Palestiniens et davantage au Hamas, vous savez, lorsqu'on entendait par exemple crier « Allahu Akbar », vous aviez parmi les associations représentées une très grande proportion d'organisations fréristes, à commencer par les Jeunes musulmans de France, qui sont évidemment la branche de jeunesse des Frères musulmans en France, ex-UOIF, mais vous aviez aussi, par exemple, le collectif Cheikh Yassine de Sefrioui, vous savez, qui est à l'origine de la décapitation de Samuel Paty, et qui est aussi, de manière un peu plus radicale, une organisation fréristes, une association fréristes. Donc il y a toute une nébuleuse, si vous voulez, très offensive, qui, par des voies détournées, celle de l'entrisme, celle de l'imposition d'un vocabulaire, d'un certain nombre de normes qu'elles veulent substituer aux normes républicaines, et tout cela dans le but, évidemment, de dessouder la communauté musulmane de la République et de ses valeurs.
C'est ce qui est bien décrit dans cette interview de Gérald Darmanin. Merci beaucoup, Mickaël Présent, d'avoir été avec nous. On va parler justement dans quelques instants de ces mobilisations pro-palestiniennes ou pro-Hamas, justement. C'est un peu la question. On va en venir à un sujet qui a un lien, finalement, avec le sujet dont on vient de parler. C'est le sujet de l'antisémitisme. Parce qu'il y a une enquête qui fait froid dans le dos, qui est édifiante, qui a été révélée par nos confrères du Parisien. Alors, on avait connaissance, finalement, des chiffres terribles sur la recrudescence d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Ce que l'on mesure désormais aussi, c'est le bouleversement dans la vie quotidienne de nos compatriotes juifs. Alors cette enquête, elle est récapitulée dans ce sujet de Solène Boulan et Tancrède Guillotet.
Depuis l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas, un quart des juifs en France a été victime d'un acte antisémite. C'est ce que révèle l'IFOP dans une enquête menée par l'antenne française de l'American Jewish Committee. Un climat qui pousserait la communauté à s'effacer dans l'espace public. 44% des juifs français sondés ne portent plus la kippa dans la rue. 33% disent avoir réduit ou arrêté leur déplacement en Uber. Une situation que déplore Anne-Sophie Seban-Bekash, la directrice de l'American Jewish Committee Paris.
Dès les lendemains du 7 octobre, comme si la passion antisémite en Israël avait déclenché partout dans le monde un sentiment, une haine anti-juive qui a vraiment créé ce sentiment de peur extrême chez les Français juifs et d'ailleurs chez les juifs du monde entier.
La haine et le rejet d'Israël seraient la première cause de l'antisémitisme en France. 35% des moins de 25 ans estiment justifié de s'en prendre aux juifs en raison de leur soutien à Israël, contre 21% de la population générale.
David Olivier Kaminski, je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du CRIF. On le voit, il y a évidemment les actes antisémites qui sont terribles et déplorables et qui sont en augmentation depuis le 7 octobre. Et puis il y a tous les modifications de comportement qu'implique ce climat antisémite aujourd'hui en France.
Pour faire le lien avec le sujet précédent, je voudrais rappeler que la présence juive en France remonte au 1er siècle, c'est-à-dire qu'il y a 2000 ans de présence juive en France. Et il faut comprendre que l'antisémitisme aujourd'hui est encore plus sidérant, frappant et fait encore plus mal de par cette présence très ancienne. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas simplement stigmatisé, pas simplement pointé du doigt, mais on a créé une forme de violence morale autour du juif. On l'a vu dans l'université, on le voit dans la rue, et peut-être bientôt dans certains lycées, c'est aussi le cas. Ce qui fait qu'en réalité, le juif est contraint et victime de cette pression morale permanente. Permanente parce qu'on fait le lien, entre guillemets, entre le citoyen français juif et l'État d'Israël.
Et quand bien même.
Alors, d'abord, il faut comprendre que ce lien n'est pas un fondement qu'on peut accepter en soi. Je partage votre point de vue, mais je dis qu'on est aujourd'hui confronté à une fabrique du mensonge. Il faut savoir que ces étudiants sont des ignares, il faut quand même le dire. Ce sont des étudiants qui ne connaissent rien au conflit israélo-palestinien. Ce sont des étudiants qui, pour la plupart d'entre eux, eh bien, n'ont jamais rencontré un Israélien ni même un Palestinien de leur vie, ne sont jamais allés en Israël ou dans les territoires palestiniens. Et je dis ces étudiants sont, entre guillemets, dans une porosité qu'on a bien compris, et on le voit aux États-Unis, où il y a 25% au moins des personnes interpellées sur le site de Columbia, le site universitaire, qui ne sont pas étudiants de Columbia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Sciences Po, on ne peut pas donner de chiffres, mais on a bien compris qu'il n'y a pas que des étudiants. On a bien compris, lorsqu'on parle d'infiltration, on parle peut-être d'infiltration, comme cela a été évoqué dans le sujet précédent, de frères musulmans. De la France insoumise, c'est certain, là c'est public, et on comprend que ces étudiants aujourd'hui sont les ignares utiles de cette cause-là. Ce n'est pas la cause de la libération d'un peuple, tout le monde l'entend, tout le monde la comprend. C'est aujourd'hui porter l'antisémitisme. Je rappelle, mais il faut le rappeler avec force à ces étudiants, que la provocation à la haine raciale ou antisémite, c'est une infraction. L'apologie de terrorisme, c'est une infraction. Les propos antisémites, c'est une infraction. Quand on décide de se mettre hors champ de la loi pénale, de la loi de la République, eh bien, je dis qu'on doit en assumer aussi les conséquences. Et là, c'est quelque chose en fait de grave, c'est qu'on a laissé dans les murs de l'université française, républicaine, universaliste, se tenir des réunions antisémites. C'est ça la gravité aujourd'hui, c'est que l'antisémitisme a eu cours dans les universités. Il ne faut pas simplement le condamner, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut réfléchir probablement différemment. On a compris que l'éducation était un combat au long cours, mais si ces étudiants ne comprennent pas parce qu'ils sont complètement dans une logique dogmatique, bah peut-être qu'à un moment donné, il faut leur rappeler par un rappel à la loi.
On va parler des étudiants, des blocages juste après la pause. Mais d'abord, je voulais en un mot sur la réponse du gouvernement. On va bientôt marquer la pause, mais il y a le dîner du CRIF lundi soir. Gabriel Attal, le Premier ministre, sera présent. Quel est le message que vous allez lui porter en quelques secondes?
Il est évident que le gouvernement a toujours été dans une préoccupation réelle, sérieuse, de lutter contre l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que l'antisémitisme fissure. La République. Là, il se passe quelque chose de nouveau que peu ont vu venir, c'est-à-dire cet antisémitisme venant des jeunes, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas, entre guillemets, été éduqués et qui refusent l'éducation, la mémoire de la Shoah, la réalité historique d'un conflit. Et ça, c'est quelque chose de nouveau que personne n'a vu venir. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir cette réflexion, qui est une réflexion nouvelle. Pour combattre l'antisémitisme, c'est pouvoir s'adresser aux jeunes. De quelle manière? Un des vecteurs importants, et c'est certain, c'est le mémorial de la Shoah qui le fait le mieux, c'est-à-dire les emmener à Auschwitz. Ce que fait le CRIF, et c'est très intéressant, c'est emmener un certain nombre, on l'a fait avec des sportifs, on l'a fait avec des hommes politiques, on l'a fait avec des journalistes, c'est emmener toutes ces personnes de la société civile en Israël, et donc d'être confronté à la réalité.
C'est ça le message que vous allez porter à Gabriel Attal lundi, entre autres, on l'imagine. On doit marquer une pause, je suis désolé de vous interrompre, on reprend le débat d'ici quelques instants, vous aurez évidemment tous la parole sur ce sujet, on élargira aussi au sujet des universités, les blocages qui se poursuivent, les lycées menacent maintenant d'entrer dans la danse. A tout de suite dans Midi News Weekend. C'est la dernière ligne droite de Midi News Weekend. Encore une demi-heure en votre compagnie pour continuer de débattre de l'actualité de ce dimanche. Avant de poursuivre les débats, le point complet sur l'info avec Isabelle Piboulot.
Nouvelle mobilisation anti-gouvernement à Tel Aviv. Hier soir, des milliers de personnes ont manifesté, dont des proches d'otages, pour réclamer à Benjamin Netanyahou la conclusion d'un accord de trêve. C'est vous qui sapez tout accord, a dénoncé la population. Les négociations entre le Hamas et les pays médiateurs se poursuivent au Caire. Le mouvement étudiant contre l'offensive israélienne à Gaza continue dans certains campus américains. Une manifestation a été dispersée hier à l'université de Virginie à Charlottesville. La police a notamment démoli des tentes de militants. Depuis le 17 avril, près de 2000 personnes ont été interpellées à travers les États-Unis. Et puis on vous remontre ces images impressionnantes sur l'île grecque de Chios à l'occasion de la messe orthodoxe de Pâques la nuit dernière. Le ciel s'est illuminé de flots de lumière, des tirs de fusées artisanales provenant de deux églises rivales. Une tradition annuelle qui remonte à 1889 lorsque les occupants ottomans avaient confisqué des canons aux insulaires. Un moment fort tant pour les croyants que pour les touristes.
Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour de nouveaux points sur l'actualité. On en parlait avant la pause, ce climat d'antisémitisme ambiant et qui s'exprime de manière très concrète dans les universités depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a des blocages, Sciences Po a été en quelque sorte l'illustration de ce mouvement des étudiants en faveur de Gaza. Et on voit pour la première fois le président de la République s'emparer de la question. Pour la première fois, en tout cas, il s'exprime sur ce sujet en disant qu'il condamne avec la plus grande fermeté les blocages. Le président de la République, on va peut-être le lire, « Je suis pour qu'il y ait des débats, c'est tout à fait légitime et même sain et rassurant que notre jeunesse puisse dire que l'actualité internationale la touche et qu'elle en débatte. Mais intimer l'ordre à un établissement d'avoir telle ou telle politique par la force et le blocage, empêcher d'autres étudiants d'accéder à un amphithéâtre sous prétexte qu'ils sont juifs, ce n'est pas la République, ce n'est pas le respect de l'autre, le pluralisme, la condamnation de l'antisémitisme et du racisme. » Enfin, si j'ose dire, le président de la République s'empare de cette question. Kevin, on n'avait pas entendu jusque-là le chef de l'État parler de Sciences Po. C'était le Premier ministre Gabriel Attal qui était le seul à être intervenu.
Enfin, et j'aurais aimé que M. Macron participe à la fameuse marche contre l'antisémitisme. Et moi, je lui en veux beaucoup de ne pas avoir été là à ce moment précis. Enfin, en effet, il condamne la liberté de débattre, très bien. La liberté d'expression à condition qu'elle ne sombre pas dans l'antisémitisme, très bien. Mais on n'a pas le droit de bloquer une université. On n'a pas le droit d'empêcher des étudiants de passer dans un hall. On n'a pas le droit d'empêcher des étudiants d'étudier. Ça, c'est une honte. Et une chose aussi que j'ai remarqué, parce que j'ai beaucoup regardé ces étudiants qui se disent pro-palestiniens, qui sont... Vous avez raison, complètement inculte, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un génocide. Génocide, génocide, génocide. Il n'y a pas de génocide aujourd'hui à Gaza. C'est une stupidité, une aberration historique de dire cela. Mais ces étudiants pro-palestiniens, pour beaucoup, ils n'ont jamais rien dit quand Bachar al-Assad a bombardé à Yarmouk un camp avec 100 000 Palestiniens. On ne les a pas entendus lors de la guerre du Yémen. On ne les entend pas pour s'émouvoir du sort des Ouïghours en Chine. Ils n'ont que le mot « juif » à la bouche. Les juifs, les juifs, les juifs. Israël, Israël, Israël. La vérité, c'est que pour beaucoup, ils s'en fichent des Palestiniens. Ce qui les gêne, c'est l'État d'Israël, c'est son existence. Ce sont les Juifs, et là on ne peut plus dire qu'il n'y a pas un lien entre antisionisme et antisémitisme. Tous les antisionistes ne sont peut-être pas forcément antisémites dans le sens où on peut critiquer la politique de Netanyahou. Mais quand on nie l'existence d'un État, là on est antisémite.
Patrice Arditi, on avait eu ce procès dont a un peu parlé Kevin Bossuet, d'Emmanuel Macron, contre Emmanuel Macron lorsqu'il ne s'est pas rendu à la marche contre l'antisémitisme, en l'occurrence sur les blocages des universités, il a des propos forts et sans aucune ambiguïté, le président de la République.
Alors, je m'étais un petit peu opposé à l'époque à Kevin en estimant, mais ça ne me regarde que moi, en estimant que le chef de l'État avait le droit de choisir là où il devait aller ou pas. Bien entendu, tout le monde sait que je suis de confession juive, j'aurais adoré que le chef de l'État vienne. Maintenant, si on se met à la place du président de la République et si on estime que la raison d'État est quelque chose d'extrêmement important, il y a probablement des choses qui l'ont empêché d'y aller parce que ça aurait pu créer un certain nombre de risques. Donc, très très bien. Cela dit,
la lutte contre l'antisémitisme n'est-ce pas une raison d'État ?
Pardon ?
La lutte contre l'antisémitisme n'est-ce pas aussi une raison d'État ?
C'est une raison d'État, mais ni vous ni moi ne sommes présidents, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Et je crois qu'il a fini par dire à un moment donné que s'il était venu, il aurait dû aller à d'autres occasions extrêmement importantes aussi.
Ce qui était aggravé son cas.
Oui. Il s'est mal défendu. Mais là, je n'essaye pas de le défendre. J'établis un constat. Moi, ce qui me gêne particulièrement, c'est quand même, là on a survolé les chiffres tout à l'heure, c'est que je vois que 21% des Français estiment qu'il est justifié de s'en prendre à des Juifs en raison de leur soutien à Israël. Un Français sur cinq, mais c'est apocalyptique. Mais c'est quelque chose d'effrayant. Alors je me demande, et je suis ravi que vous soyez là, je me demande si il n'y a pas peut-être une explication dans le fait de dire sans arrêt Juif français, juif musulman.
Non, on dit français juif, français musulman.
Je préférerais, nous sommes en France, je préférerais qu'on dise français juif. Parce que les abrutis, là, qui font partie des 20%, ils verraient d'abord qu'il y a le mot français. La judéité, c'est quelque chose qui est personnel. Toutes les religions, c'est quelque chose qui est personnel. On est français. On est français. Juif, juif français si vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire ? Pour essayer de faire comprendre à un certain nombre d'ignorants, d'ignares, que il est aussi important d'être français que d'avoir une religion quelconque, eh bien je crois qu'il faut mettre les points sur les i. Bon, c'est mon opinion.
Dans le discours du président du CRIF, Yonatan Arfi, il a toujours, je dis bien toujours, parlé des Français juifs.
Bravo.
Toujours.
Bravo.
Je voudrais juste rappeler quand même qu'on a trois compatriotes français.
Voilà, qui sont c'est ce que j'allais dire sur la déclaration d'Emmanuel
Hamas,
Macron.
Et on en a eu, je crois, 140 qui ont été assassinés par les terroristes du Hamas. Ce sont des compatriotes. Sur le président de la République, il condamne avec la plus grande fermeté. Moi, j'ai cru que c'était le chef de l'opposition. Parce que le président de la République, il a quand même une certaine autorité sur la force publique. Mais je n'ai pas vu la force publique réagir très rapidement dans ces blocages. Avec devant Sciences Po ou autre.
Alors Matignon a communiqué sur le fait que c'était le Premier ministre qui avait demandé l'évacuation de la Sorbonne.
Tardivement aussi. Mais enfin, je condamne. Mais non, on ne lui demande pas de condamner, on lui demande d'agir.
Oui, moi je voulais souligner justement que dans la réaction d'Emmanuel Macron, évidemment tardive et uniquement incantatoire, il manquait quand il rappelle que la France réclame un cessez-le-feu immédiat et réclame la restitution immédiate des otages encore détenus par le Hamas. C'est très malheureux qu'il n'ait pas pensé à le dire dans le même bout de phrase. Par ailleurs, contrairement à M. Kaminski, moi je ne pense pas que répondre par des condamnations, par la loi, aux dérives antisémites des mouvements qui se passent dans les facultés et à Sciences Po soit une solution. Alors certes, sur le coup, ça peut faire plaisir et ça peut empêcher de nuire des idéologues, des vecteurs d'antisémitisme. Mais le mal est tellement profond que je ne vois pas comment on pourrait s'exonérer d'un effort pédagogique qui aille contre cette propagande notamment diffusée par la France Insoumise, mais aussi par l'UNEF, par exemple, l'UNEF qui s'était
qui s'est illustré en élisant à Paris 4 une présidente voilée.
Une partie de la CGT.
Qui est toujours une partie de la CGT qui est contre la loi El Khomri de 2016, qui interdit le port de signes religieux dans les entreprises où le code de l'entreprise le proscrit, etc., etc. La CGT milite contre cette loi-là.
Si vous aviez bien suivi,
en fait.
J'ai évoqué d'autres pistes.
En un mot pour finir, je veux dire que par exemple, quand la justice oblige Paris Dauphine à accueillir un meeting de Madame Rima Hassan sur la Palestine, ce qui vient d'avoir lieu, je crois que la décision est tombée hier, plutôt que de s'en désoler, il faut dire aux autres, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous abandonnez le terrain des facs à l'extrême gauche, des écoles, le débat public est malheureusement quasiment.
La présence médiatique de Madame Hassan n'a aucune importance par rapport.
Je parle de sa présence dans les facs.
Mais par rapport au nombre de profs, par exemple, et on en a un, vous en avez un à côté de vous, hein, le nombre de profs qui n'osent pas parler de sujets essentiels qui touchent justement à l'antisémitisme.
Mais. J'ai évoqué, en effet, une des pistes qui
on
était...
On voit le tweet de Rima Hassan, pardon, pendant que vous parlez. Ce tweet, donc, Rima Hassan l'a posté hier. Elle reprend le terme de soulèvement qui lui avait été reproché. C'était avant une mobilisation à Sciences Po. Et elle dit, lundi, je serai dans un de ces lycées. Elle fait référence au fait que des organisations lycéennes ont appelé à rejoindre le mouvement.
Ah, et mardi, dans les collèges.
Alors ça, on verra.
Mercredi en maternelle ? Non mais on en arrive au ridicule.
David-Olivier Kaminski, c'était à vous.
Oui, non, j'ai évoqué le rappel à la loi parce qu'il faut quand même se dire que quand on assiste à des infractions qui sont commises, est-ce que, et c'est une vraie question d'ordre public, est-ce qu'on peut les laisser, entre guillemets, sans poursuite et sans que la justice réponde ? Mais j'ai aussi dans ma réponse, et vous l'avez oublié, chère Judith Ventraub, évoqué le travail autour de la mémoire de la Shoah, les voyages qui sont faits en Israël, ce sont des pistes de travail, mais dans l'immédiateté d'aujourd'hui, quelle réponse concrète vous apportez, puisque la réponse doit venir quand même de l'intérieur de ces universités, c'est-à-dire de la direction de ces universités. Si ces directeurs d'universités ne sont pas en mesure de pouvoir faire régner la paix civile dans leurs murs, l'ordre public minimum, le respect de tous les étudiants, la possibilité des étudiants de toute confession de pouvoir participer aux cours sans être stigmatisés, sans être brocardés, sans subir des violences morales et parfois physiques, bah, tant qu'on n'a pas tout ça, et je le dis, cela ne vient que de l'intérieur, on peut faire des grands discours, mais le pragmatisme, il est ici, maintenant, et dans ce cadre-là.
Et c'est surtout, on le rappelle, très souvent, une infime minorité de personnes qui bloquent une université qui empêche parfois des étudiants d'une certaine profession d'entrer. Non mais quand je dis ça, c'est que la direction pourrait prendre des mesures de sanction contre cette poignée d'étudiants.
Et pour la majorité silencieuse.
Et pour la majorité silencieuse qui, elle, veut juste étudier tranquillement. Et on voit qu'il y a la main qui tremble d'une certaine manière à Sciences Po, pour ne citer que
cette école. Vous avez raison, mais regardez le chiffre que nous a donné Patrice, qu'on a entendu. 21% de Français, normalement, ou d'habitants en France, j'en sais rien, qui trouvent justifié qu'on puisse s'en prendre à nos concitoyens juifs à cause du conflit israélo-palestinien. Près du quart. Mais c'est terrifiant. Hein.
Est-ce que c'est aussi pour cette raison, à votre avis, on va y venir rapidement, que la France insoumise, on revient toujours à ce parti, instrumentalise ses causes, alimente les fractures, met de l'huile sur le feu en permanence à des fins électorales, parce qu'ils savent, peut-être comme Emmanuel Macron le savait en ne se rendant pas à la marche contre l'antisémitisme, qu'il y a une partie des Français qui n'obéit pas à nos règles communes et qui a une vision très problématique de la situation.
Mais bien sûr, il y a chez la France insoumise deux objectifs. Tout d'abord, satisfaire idéologiquement certains de ses membres qui sont profondément anti-sionisme et qui ont la haine d'Israël chevillée au corps. Et ensuite, il y a évidemment un pari électoraliste. Le but, c'est évidemment de jouer sur les fractures identitaires en banlieue et de faire passer Jean-Luc Mélenchon comme le défenseur et l'unique défenseur des musulmans. Et je peux vous dire que moi, qui enseigne en banlieue, parfois, ça prend vraiment. Et une chose qui, moi, me scandalise, vraiment, vous dites, Thomas, c'est une minorité. Certes, vous l'opposez, je suis d'accord, vous l'opposez à la majorité silencieuse. J'aimerais bien savoir, dans cette majorité silencieuse, s'il n'y a pas une bonne part aussi qui soutient idéologiquement cette minorité agissante. En outre, vous abordez la question de la soumission, notamment des présidents d'universités. Et là, pour le coup, à Sciences Po, c'était flagrant. Pourquoi il y a ça aujourd'hui à Sciences Po ? Parce que la direction a accepté que M. Mélenchon se rende dans les locaux pour tenir un meeting. Tout est quand même parti de là. Et quand je vois la manière dont la direction de Sciences Po a négocié avec des gens qui nient l'existence d'Israël, qui propagent pour certains d'entre eux l'antisémitisme, c'est une honte. Sciences Po a été créé à la fin du 19e siècle par un homme respectable qui était M. Boutmy, qui était un véritable républicain. Aujourd'hui, ceux qui bloquent Sciences Po vont à l'encontre des valeurs de la République, vont à l'encontre des valeurs de la démocratie. Ils sont en train de profaner cette école, d'empêcher des étudiants d'étudier. Les Juifs, beaucoup d'étudiants juifs sont à Sciences Po, n'osent plus se rendre sur le campus. Est-ce qu'on est encore en République ici ? Est-ce qu'on est encore en démocratie ? Et quand M. Arditi disait que Monsieur Macron a eu raison de ne pas se rendre à cette marche de l'antisémitisme. Je ne suis pas d'accord. Disons, vous l'excusez. On est à un moment où les Juifs sur notre territoire sont menacés, où beaucoup de Juifs se sentent plus en sécurité en Israël, dans un pays en guerre, qu'en France. Quand on est président de la République, on est à la hauteur de l'histoire et il aurait dû se rendre à cette marche de l'antisémitisme. Je ne suis pas juif, mais je lui en voudrais toujours parce que j'ai été choqué. Mais
j'aimerais justement qu'on s'intéresse sur le fait qu'il... Mais bien sûr, je vais vous donner la parole, mais sur le fait que...
Vous souvenez de mes propres mots, j'ai regretté qu'il ne soit pas...
Oui, voilà.
Mais vous lui avez accordé quelques excuses...
Non, j'ai parlé de raison
d'État. Mais la raison d'État, comme le dit M. Kaminski, la lutte contre l'antisémitisme, c'est aussi ça la raison d'État.
Ce qui est intéressant, à mon avis, dans le fait que le président de la République ne soit pas rendu à cette marche, c'est parce qu'il considère qu'il y a une partie de la population, comme on le disait, qui ne voit pas d'un bon œil le fait de marcher contre l'antisémitisme. Et ça dit quelque chose de très grave sur l'état de fracture d'une partie.
Le ressort du vote pour la France insoumise, c'est la victimisation du musulman comme figure du réprouvé en France. Le thème de l'islamophobie systémique de la France fait les belles heures électorales de Jean-Luc Mélenchon. Mais alors, vous avez des éléments très circonstanciels et puis vous avez des raisons de fond, je trouve, à la situation et notamment à Sciences Po. C'est l'enseignement, le corps enseignant et la formation des profs qui sont totalement gangrénés par ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Et ces racines-là, pour les extirper, d'abord il va falloir commencer par le reconnaître. Ce serait bien par exemple que Gérald Darmanin, dans sa grande reconnaissance du danger que représente la confrérie secrète des frères musulmans et son influence, s'intéresse aussi au contenu des enseignements. À Sciences Po par exemple, tous les étudiants qui veulent s'intéresser au monde musulman ont droit à des cours doctrinaux sur ce qu'on appelle le sud global, qui a totalement remplacé les études sérieuses d'islamologie. Gilles Kepel étant une des victimes de ce changement parmi d'autres. Mais ça, malheureusement, on ne s'y attaque pas. Et malheureusement encore, je ne compte pas sur Sylvie Retailleau, qui c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'est illustrée par sa lâcheté en félicitant la direction de Sciences Po d'avoir cédé aux revendications des bloqueurs pour rétablir la situation et pour prendre le problème en main.
Je vous donne la parole, mais vous parlez de la France insoumise, et c'est très intéressant. Il y avait Jérôme Fourquet qui était invité ce matin du Grand Rendez-vous, et il rappelle un fait qu'on oublie ou qu'on occulte parfois, mais la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, en 2022, ne s'est pas qualifié au second tour de l'élection présidentielle à 400 000 voix près, ce qui est infime. Et Jérôme Fourquet en fait un lien avec la stratégie actuelle électorale de la France insoumise. Écoutez-le.
L'armée de réserve pour la France insoumise se trouve chez ces abstentionnistes de banlieue. Et deuxième conviction, qui est très discutable, ils sont persuadés que, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, c'est en parlant dru et cru qu'on va décongeler cet électorat abstentionniste en parlant soit des violences policières, la police tue, soit en épousant les causes ou la rhétorique la plus radicale sur le conflit israélo-palestinien.
Donc, David Olivier Kaminski, finalement, on rejoint, alors vous n'étiez pas encore avec nous, mais on a parlé en tout début d'émission de la reconstitution à Nanterre sur l'affaire Naël, avec un député de la France Insoumise, Thomas Porte, qui déjà mettait de l'huile sur le feu. On termine avec cette situation dans les facs, et là aussi, la France Insoumise qui joue la même partition.
Écoutez, il y a quelque chose qui est très frappant, pour rejoindre les propos de Judith Weintraub, on est en pleine campagne pour les élections européennes. L'idée, c'est de savoir quelle Europe pour demain. Le programme de LFI, c'est le conflit israélo-palestinien, c'est le Hamas. Il n'y a pas un mot sur l'Europe. Donc si LFI propose aux citoyens français une vision de l'Europe avec l'importation du conflit, avec la haine raciale et antisémite, c'est ça la réalité aujourd'hui. LFI est un danger pour la République et je crois de manière très claire, on l'a démontré et établi, il y a véritablement, pas simplement des relents, mais une marque estampillée de tenir tout à la fois des propos, de faire des investigues, à l'encontre des personnes de confession juive.
Patrice Arditi, la France insoumise, c'est vrai, dans ces élections européennes, n'existe que sur la question au Proche-Orient, occulte complètement tout le reste, à des fins électorales, et Jérôme Fourquet l'a plutôt bien décrit, justement, ce mécanisme, c'est d'aller chercher ceux qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser.
Il y a le côté opportuniste de la direction de LFI, avec évidemment M. Mélenchon en premier, mais ce qui découle de ça, c'est la haine qui suinte de la part d'un certain nombre de ses représentants qui savent très très bien, je parle des élus bien entendu, qui savent très très bien ce qu'ils font, mais en dessous, ils ne savent pas. Il y a un phénomène de panurgisme où LFI est là en train de dire celui-là c'est un ennemi potentiel, ce sont les juifs qui tiennent le pouvoir dans le monde, alors de toute façon, surtout, non, leur faites pas de mal, mais dites-le. Et finalement, ça aggrave ce sentiment d'antisémitisme mais qui est complètement crétin, complètement abruti, parce que franchement, qu'on soit raciste ou antisémite, mais je veux dire, c'est pas une preuve d'intelligence. C'est du panurgisme. C'est ridicule. C'est à l'encontre de toutes les études que peuvent faire les gens. Et quand on voit que 35% des moins de 23 ans suivent ce genre de directive, eh bien, bonne chance pour nos enfants.
Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette émission. Je vous remercie tous les cinq.
Soit-on une joyeuse Pâques européenne, aux Grecs, aux Bulgares, aux Chypriotes, aux Moldaves, etc. Parce que c'est la Pâque orthodoxe aujourd'hui.
Voilà, ce sera le véritable mot de la fin. Je vous remercie tous les cinq de m'avoir accompagné. J'ai été ravi de passer ces deux jours en votre compagnie. Vous retrouverez Thierry Cabanne à partir du week-end prochain. Je remercie tout particulièrement François Hepp, Anne-Isabelle Tollet et Cynthia Pina qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans quelques instants sur CNews, vous avez rendez-vous avec Enquête d'Esprit. À très vite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.